Catéchisme de Trente, chapitre 30e, le second commandement, vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu. Cet article est traité en cinq paragraphes. Les trois premiers exposent ce qui est ordonné par le second commandement, et ensuite le serment et ses conditions, et les paragraphes 4 et 5 s'attache à l'exposition de ce qui est défendu par le second commandement et le châtiment de sa violation. Le premier commandement que nous venons d'expliquer et qui nous ordonne de rendre à Dieu un culte saint et plein de respect renferme nécessairement le commandement dont nous avons à parler maintenant et qui est le second. Qui veut être honoré, en effet, veut par là même qu'on parle de lui avec une déférence parfaite. Et il défend même le contraire. C'est ce que nous indiquent clairement ces paroles du Seigneur dans Malachie. Le fils doit honorer son père et le serviteur son maître. Si donc je suis votre père, où sont les honneurs qui me sont dus? Mais Dieu, pour nous faire comprendre la grandeur du devoir qu'il nous impose ici, a voulu nous prescrire sur l'honneur qui doit environner la sainteté de son nom divin, un précepte spécial, et qu'il a exprimé en termes très clairs et très formels. Et cette raison doit suffire pour montrer au pasteur que ce n'est pas assez de parler de ce commandement d'une manière générale, mais qu'il faut au contraire s'y arrêter assez longtemps, afin de pouvoir donner aux fidèles les explications particulières, claires et précises, dont ils ont besoin. Et il ne peut apporter à ce travail trop de diligence et de zèle, puisque malheureusement il est des hommes tellement aveuglés par l'erreur qu'ils ne craignent pas de maudire celui que les anges glorifient. Loin d'être retenus par la loi donnée par Dieu lui-même, ils ont l'audace et la témérité d'avilir la majesté divine par leur blasphème de tous les jours et presque de tous les instants. Qui ne voit en effet qu'on affirme tout avec serment, qu'on met des imprécations et des exécrations partout. Presque tous ceux qui vendent, qui achètent ou qui traitent quelque affaire ont recours au serment. Et prenant mille fois en vain le nom du Seigneur, même dans les choses les plus légères et plus frivoles. C'est donc un véritable devoir pour le pasteur de redoubler de soins et de zèle, afin de rappeler souvent aux fidèles combien ce crime est énorme et détestable. La première chose à faire remarquer dans l'explication de ce précepte, c'est que s'il est certaines choses qu'il défend, il en est d'autres qu'il commande, et que les hommes sont obligés d'accomplir. Ces deux points veulent être traités séparément. Et pour que cet enseignement soit plus facile et plus clair, il faut commencer par les choses que la loi commande pour parler ensuite de celles qu'elle défend. Or, ce qu'elle commande, c'est d'honorer le saint nom de Dieu et de ne jurer par ce nom qu'avec un religieux respect. Ce qu'elle défend, c'est que personne n'ose mépriser ce nom sacré, ne le prenne en vain et ne jure à faux par lui, témérairement ou sans motif. Paragraphe 1er, ce qui est ordonné par le second commandement. Dans la partie de ce précepte qui nous ordonne d'honorer le saint nom de Dieu, le pasteur ne manquera pas de faire observer aux fidèles que ce ne sont pas les lettres, ni les syllabes qu'il faut considérer, ni le nom en lui-même, mais la chose exprimée par ce nom. C'est-à-dire la toute-puissance et l'éternelle majesté d'un seul Dieu en trois personnes. Cette déclaration nous montre immédiatement combien était vaine la superstition d'un certain nombre de Juifs qui voulaient bien écrire le nom de Dieu, mais qui n'osaient pas le prononcer, comme si la vertu de ce nom eût été dans les lettres qui le composent et non pas dans la chose qu'il signifie. Et quoi qu'il soit écrit au singulier dans la loi, vous ne prendrez point le nom du Dieu en vain, cela ne doit pas s'entendre d'un nom unique, mais de tout ce que l'on donne habituellement à la divinité. Car la vérité est que nous lui donnons beaucoup de noms, comme ceux de Seigneur, de Tout-Puissant, de Seigneur des armées, de Roi des rois, de Fort, et plusieurs autres de ce genre que nous lisons dans la Sainte Écriture et qui sont tous également respectables. Ensuite, il faut apprendre aux fidèles comment on rend au nom adorable de Dieu l'honneur qu'il réclame. Car il n'est pas permis à des chrétiens qui doivent avoir sans cesse à la bouche les louanges de Dieu d'ignorer une chose si utile et si nécessaire au salut. Or, il y a plusieurs manières de louer ce divin nom. Cependant, on peut dire que toutes ces manières sont renfermées en ce qu'elles ont d'essentiel dans celles que nous allons expliquer. Premièrement, nous louons Dieu quand nous confessons hardiment, devant tout le monde, qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Et quand, reconnaissant Jésus-Christ pour l'auteur de notre salut, nous le proclamons notre Sauveur. Nous le louons encore lorsque nous étudions, avec autant de respect et d'attention, sa parole sainte, l'expression de sa sainte volonté. Lorsque nous méditons cette parole avec assiduité, lorsque nous cherchons, avec tout le zèle possible, à nous en instruire, soit en la lisant, soit en l'écoutant, selon que nos emplois et notre état nous le permettent. Enfin, nous honorons, nous vénérons ce nom sacré, lorsque par devoir ou par dévotion, nous célébrons ses louanges et lui rendons des actions de grâce particulières, pour tout ce qui nous arrive, l'adversité comme la prospérité. Ainsi le roi prophète disait: Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie jamais les grâces que tu as reçues de lui. Et dans plusieurs autres psaumes, ce même prophète célèbre les louanges de Dieu dans les chants les plus suaves, et avec l'accent de l'amour et de la reconnaissance. Ainsi Job, cet admirable modèle de patience, étant tombé dans les plus grandes et les plus horribles calamités, ne cessa jamais de louer Dieu, avec une grandeur d'âme étonnante et un invincible courage. Ainsi nous-mêmes, si nous souffrons cruellement dans notre corps et dans notre âme, si les misères et les afflictions de la vie nous accablent, hâtons-nous d'employer ce qui nous reste de volonté et de courage pour louer Dieu quand même, et répéter avec Job que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous ne l'honorons pas moins ce nom adorable lorsque nous implorons son secours avec confiance, soit afin d'être délivrés de nos maux, soit afin d'obtenir de lui la constance et la force dont nous avons besoin pour les supporter sans faiblir. Dieu lui-même veut que nous agissions ainsi. Invoquez-moi, dit-il, au jour de la tribulation, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Il y a dans l'Écriture, et spécialement dans les psaumes 26, 43 et 118, de nombreux et magnifiques exemples de cette invocation. C'est encore traiter ce nom divin avec honneur que de le prendre à témoin pour faire croire à notre parole. Mais cette manière diffère beaucoup des précédentes, car celles dont nous venons de parler sont de leur nature si excellente et si désirable que rien ne peut être plus avantageux pour l'homme, et que ce qu'il doit rechercher avec le plus d'empressement, c'est de s'y exercer et le jour et la nuit. Je bénirai le Seigneur en tout temps, disait David, sa louange sera toujours dans ma bouche. Au contraire, quoique le serment soit bon en lui-même, l'usage fréquent ne peut en être louable. Et voici la raison de cette différence. Le serment n'a été institué que pour servir de remède à la faiblesse humaine et comme un moyen nécessaire pour prouver ce que nous avançons. De même qu'il ne faut donner au corps que les remèdes nécessaires et que l'application trop fréquente de ces mêmes remèdes serait dangereuse, de même aussi il n'est pas utile de jurer sans raison grave et légitime. Et si l'on a trop souvent recours au jugement, loin d'être avantageux, il entraîne avec lui les plus graves inconvénients. C'est pourquoi saint Jean Chrysostome dit très bien que l'usage du serment ne remonte point au commencement du monde, mais à des temps bien postérieurs, lorsque la malice des hommes propagée en tous sens couvrait l'univers entier. Que plus rien n'était digne dans son ordre ni à sa place, que la perturbation et la confusion étaient partout, qu'en haut, en bas, tout était emporté pêle-mêle dans un désordre universel, et que pour comble de tous les maux, presque tous les hommes s'étaient livrés au culte honteux des idoles. Ce ne fut qu'après cet intervalle, bien long sans doute, que le serment se glissa dans les rapports des hommes entre eux. La perfidie et la corruption devinrent telles que les hommes se décidaient difficilement à croire à la parole les uns des autres, et ils furent obligés de prendre Dieu à témoin de ce qu'ils disaient. Paragraphe 2 du serment. Le point capital dans cette partie du second commandement que nous expliquons est d'apprendre aux fidèles la manière de jurer religieusement et saintement. Le pasteur devra donc enseigner que jurer, c'est simplement prendre Dieu à témoin, quelle que soit d'ailleurs la formule et les mots qu'on emploie. Ainsi, dire Dieu m'est témoin et dire par Dieu, c'est tout un. C'est encore jurer que prendre à témoin pour se faire croire des créatures, comme les saints évangiles, la croix, les reliques des saints, leur nom et toute autre chose de ce genre. Car ce ne sont pas ces objets pris en eux-mêmes qui donnent au serment force et autorité. C'est Dieu seul dont la souveraine majesté brille dans ses créatures. Ainsi, jurer par l'Évangile, c'est jurer par Dieu même, dont la vérité est contenue et exprimée dans l'Évangile. Il en est de même quand on jure par les saints, qui sont les temples de Dieu, qui ont en eux foi dans la vérité évangélique, qui l'ont environnée de tout leur respect, et qui l'ont répandue par toute la terre et au sein des nations les plus éloignées. Il faut en dire autant du serment que l'on fait avec imprécation, comme saint Paul par ses paroles, je prends Dieu à témoin sur ma vie. Un serment de cette nature nous livre au jugement de Dieu comme au vengeur du mensonge. Toutefois, nous reconnaissons que plusieurs de ces formules ne sauraient passer pour de véritables serments. Mais il est bon d'observer vis-à-vis d'elles ce qui a été dit de serment et de leur appliquer exactement les mêmes principes et les mêmes règles. Il y a deux sortes de serments. Le premier est le serment d'affirmation. Il consiste à affirmer par jurement une chose présente ou passée. L'apôtre nous en donne un exemple dans son épître aux Galates quand il dit « Je prends Dieu à témoin que je ne mens pas ». Le second est le serment de promesse ou de menace. Il se rapporte entièrement à l'avenir. On l'emploie pour promettre et confirmer sa promesse qu'une chose se fera de telle ou telle manière. Ce fut le serment de David, jurant par le Seigneur son Dieu, il promit à Bethsabée son épouse que Salomon son fils serait son héritier et son successeur sur le trône. Paragraphe 3. Conditions nécessaires pour que le serment soit permis. Quoi qu'il suffise pour qu'il y ait serment de prendre Dieu à témoin, cependant pour que ce serment soit légitime et saint, plusieurs conditions se requisent qui veulent être expliquées avec soin. Le prophète Jérémie les énumère, comme le remarque saint Jérôme en peu de mots, quand il dit « Vous jurerez par cette parole, vive le Seigneur, mais avec vérité, avec jugement et avec justice. » Et il faut reconnaître que ce texte est un véritable résumé de tout ce qui rend un serment parfait, c'est-à-dire précisément la vérité, le jugement et la justice. La première condition du serment est donc la vérité. Il faut que ce qui est avancé soit vrai et que celui qui jure le regarde comme tel. Non pas témérairement et sur de vaines conjectures, mais en s'appuyant sur les raisons les plus solides. La même condition est requise pour le serment qui accompagne une promesse. Celui qui promet doit être disposé à tenir sa parole et à s'exécuter quand le temps sera venu. Et comme on ne peut supposer qu'un homme de bien s'engage à jamais faire une chose qu'il regarderait comme contraire au commandement et à la très sainte volonté de Dieu, tout ce qu'il aura pu promettre et jurer par serment, il ne manquera pas de l'accomplir. À moins que les circonstances n'aient tellement changé les choses qu'il ne puisse garder sa parole et rester fidèle à ses promesses sans encourir le mécontentement et l'indignation de Dieu. David montre parfaitement combien la vérité est nécessaire au serment quand il dit « Celui qui jure à son prochain et qui tient sa parole. » En second lieu, il faut jurer avec jugement. C'est-à-dire qu'il ne faut point recourir au serment d'une manière téméraire et inconsidérée, mais après examen et mûre réflexion. Ainsi, avant de jurer, il faut voir s'il y a nécessité ou non, peser attentivement l'affaire pour s'assurer qu'elle a besoin d'être prouvée par serment, considérer le lieu, le temps et toutes les autres circonstances qui s'y rattachent. Ne se laisser entraîner ni par la haine, ni par l'amitié, ni par aucun mouvement déréglé de l'âme, mais uniquement par la nécessité et l'importance de ce qui est en question. Si on néglige de faire ses réflexions et de prendre ses précautions scrupuleuses, on fera nécessairement un serment précipité et téméraire. Tels sont les serments sacrilèges de ces hommes qui, pour les choses les plus légères et les plus futiles, jurent sans raison, sans examen, mais uniquement par une coupable habitude. C'est ce que nous voyons chaque jour et partout entre vendeurs et acheteurs. Ceux-là pour vendre plus cher, ceux-ci pour acheter à meilleur marché, ne craignent pas d'employer le serment pour vanter ou déprécier la marchandise. C'est parce que le jugement et la prudence sont nécessaires pour jurer, et que les enfants n'ont pas encore assez de perspicacité et de discernement en pareil cas, que le pape Saint Corneille défendit par décret d'exiger d'eux le serment avant l'âge de puberté, c'est-à-dire avant l'âge de 14 ans. La troisième et dernière condition est la justice. Et c'est surtout quand il s'agit de promesses que cette justice est requise. Si quelqu'un promet avec serment une chose injuste et déshonnête, il pèche d'abord en jurant, et il commet un second crime en accomplissant sa promesse. L'Évangile nous fournit un exemple de ce double crime dans la personne du roi Hérode. Ce malheureux s'était lié d'abord par un serment téméraire, puis pour tenir son serment, il osa donner à une danseuse, comme prix de sa danse, la tête de Saint Jean-Baptiste. Tel fut encore le serment de ces Juifs dont nous parlent les Actes des Apôtres, qui avaient juré de ne prendre aucune nourriture avant d'avoir fait périr Saint Paul. Après ces explications, il est hors de doute que l'on peut jurer en sûreté de conscience quand on observe religieusement toutes les conditions dont nous venons de parler, et qui, en effet, entourent les serments comme d'une espèce de sauvegarde. Au surplus, nous ne manquons pas d'arguments pour prouver ce que nous avançons. Ainsi, la loi du Seigneur, qui est sainte et sans tache, renferme ce commandement: vous craindrez le Seigneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui, et vous jugerez par son nom. Le prophète David nous dit: ceux qui jurent par le Seigneur seront loués. On voit aussi dans le Nouveau Testament que les saints apôtres, ces éclatantes lumières de l'Église, ont eux-mêmes usé du serment dans l'occasion. Les épîtres de saint Paul ne nous laissent aucun doute sur ce point. Il convient d'ajouter que les anges eux-mêmes font quelquefois des serments. Il est écrit dans l'Apocalypse de saint Jean que l'ange jura par celui qui vit dans les siècles des siècles. Enfin, Dieu lui-même, le roi des anges, a recours au serment. Dans plusieurs endroits de l'Ancien Testament, il s'en sert pour confirmer ses promesses à Abraham et à David. Celui-ci nous dit dans le psaume 109: le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira point. Vous êtes le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Si l'on considère en effet ce qu'est le serment en lui-même, dans sa cause et dans sa fin, il est facile de montrer que c'est un acte très louable. Il a sa cause et son principe dans la foi, qui porte les hommes à croire que Dieu est la source de toute vérité, qui ne peut par conséquent ni être trompé, ni tromper personne, que tout est à nu et à découvert devant ses yeux, que son admirable providence veille sur toutes choses et gouverne le monde entier. C'est sous l'empire de ces sentiments que nous invoquons Dieu comme témoin de la vérité. Il serait donc impie et criminel de n'avoir pas confiance en lui. La fin du serment, le but spécial qu'il se propose, c'est de prouver la justice et l'innocence, de terminer les procès et les différends. Ainsi l'enseigne l'apôtre lui-même dans son épître aux Hébreux. Et cette doctrine n'est nullement contraire à ces paroles de notre Sauveur en saint Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne vous parjurerez point. Vous vous acquitterez des serments que vous aurez faits au Seigneur. Et moi je vous dis que vous ne devrez jurer aucunement, ni par le ciel qui est le trône de Dieu, ni par la terre qui est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi, ni même par votre tête parce qu'il ne dépend pas de vous d'en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Bornez-vous à dire, cela est, cela n'est pas. S'il y a quelque chose de plus, il vient du mal. En effet, on ne saurait soutenir que ces paroles condamnent le jurement en général et d'une manière absolue, puisque, comme nous l'avons vu plus haut, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et les apôtres ont juré et même fréquemment. Notre Seigneur n'avait donc pour but en parlant de la sorte que de réfuter la coupable erreur des Juifs, qui se figuraient que dans le serment il n'y avait qu'une chose à éviter, le mensonge, et qui dès lors juraient et faisaient jurer les autres à tout propos pour les choses les plus vaines et les moins importantes. C'est cette coutume que le Sauveur blâme et réprouve, et voilà pourquoi il enseigne qu'il faut s'abstenir entièrement de jurer, à moins que la nécessité ne le demande. D'ailleurs, le serment est un effet de la faiblesse humaine, et à ce point de vue, il procède réellement du mal. C'est une marque de l'inconstance de celui qui jure, ou de l'obstination de celui qui fait jurer, puisqu'il ne veut pas se laisser persuader autrement. Toutefois, nous le répétons, le serment trouve son excuse dans la nécessité. Et lorsque notre Sauveur nous dit, bornez-vous à ces mots, cela est, cela n'est pas, il nous montre assez par cette manière de parler que ce qu'il veut défendre, c'est l'habitude de jurer dans les entretiens familiers et pour des choses de peu d'importance. En somme, il nous avertit de ne pas être trop facile et trop enclin à faire serment. Et c'est aussi ce qu'il faut enseigner avec le plus grand soin et répéter souvent aux fidèles. Car selon l'Écriture et le témoignage des pères, la trop grande facilité à jurer engendre une infinité de maux. Il est écrit dans l'Ecclésiaste, n'habituez point votre bouche au serment, car il en résulterait de grands maux. Et encore, l'homme qui jure souvent sera rempli d'iniquité. L'affliction ne s'éloignera point de sa maison. On peut lire dans saint Basile et dans saint Augustin tout ce qu'ils ont écrit à ce sujet dans leur livre contre le mensonge. Mais c'est assez sur ce que ce précepte ordonne. Voyons maintenant ce qu'il défend. Paragraphe 4. Ce qui est défendu par le saint commandement. Il nous est défendu par ce commandement de prendre en vain le nom du Seigneur. Celui qui se laisse aller à jurer sans réflexion et avec témérité se rend évidemment coupable d'un péché grave, et la grièveté de ce péché est facile à établir, d'après ces paroles, vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur. Il semble en effet que Dieu lui-même vient nous dire en d'autres termes que ce qui rend cette faute si odieuse et si impie, c'est qu'elle diminue en quelque sorte sa majesté. La majesté de celui que nous reconnaissons pour notre Seigneur et pour notre Dieu. Ce précepte nous défend encore de jurer à faux, c'est-à-dire contre la vérité. Celui qui ne recule pas, épouvanté devant un pareil crime, et qui ose prendre Dieu à témoin d'un mensonge, lui fait une injure infinie. Il l'accuse ni plus ni moins d'ignorance, en pensant qu'il y a des vérités qui peuvent lui échapper, ou bien de malice et d'iniquité, comme si Dieu était capable de confirmer un mensonge par son propre témoignage. Or, on jure à faux, non pas seulement quand on jure qu'une chose est vraie, sachant bien qu'elle est fausse, mais aussi quand on affirme avec serment la vérité d'une chose que l'on croit fausse, encore qu'elle soit vraie au fond. Mentir, c'est parler contre sa pensée et contre ses sentiments intimes. Par conséquent, dans le présent cas, il y a évidemment mensonge et parjure. Par la même raison, il y a aussi parjure quand on affirme par serment une chose que l'on croit vraie et qui cependant est fausse. À moins que l'on ait mis tous ses soins et tout son zèle à s'en assurer et à la vérifier. Bien que les paroles soient ici d'accord avec la pensée, néanmoins il y a violation du précepte. Il y a encore parjure dans celui qui a fait une promesse avec serment sans avoir l'intention de l'accomplir, ou qui, s'il a eu cette intention, n'accomplit pas ce qu'il a promis. C'est le péché de ceux qui se sont liés envers Dieu par des vœux qui n'exécutent point. Une autre manière de pécher contre ce précepte, c'est d'émettre un serment qui ne serait point accompagné de la justice, laquelle est une des conditions nécessaires du serment légitime. Ainsi, celui qui promet avec serment de commettre un péché mortel, un meurtre par exemple, viole incontestablement le précepte, lors même qu'il parlerait sérieusement et du fond du cœur, et que son serment aurait pour lui la vérité, celle des trois conditions exigées à laquelle nous avons donné le premier rang. À ces serments défendus, il faut encore ajouter ceux qui naissent d'une sorte de mépris, comme les serments de ne point obéir au conseil de l'Évangile, par exemple ceux qui exhortent au célibat et à la pauvreté. Sans doute personne n'est rigoureusement tenu de suivre ces conseils, mais jurer de ne pas vouloir s'y soumettre, c'est mépriser et violer les conseils de Dieu par cet indigne serment. C'est violer également le deuxième précepte et pécher contre le jugement que de jurer pour une chose qui est vraie et que l'on croit telle, mais en ne s'appuyant que sur de simples conjectures ou sur des raisons prises de trop loin. Quoique la vérité accompagne un serment de cette nature, il s'y mêle néanmoins une sorte de fausseté, puisque celui qui fait serment avec témérité s'expose grandement à faire un parjure. Celui-là jure encore contre la vérité qui jure par les faux dieux. Qu'y a-t-il en effet de plus opposé à la vérité que de prendre à témoin des divinités mensongères et imaginaires, comme si elles étaient le vrai Dieu lui-même? Mais si l'Écriture nous dit en nous défendant le parjure « Vous ne déshonorerez point le nom de votre Dieu », elle condamne par là même toute espèce de négligence dans tous les devoirs que ce précepte nous impose, et spécialement en ce qui concerne la parole de Dieu, dont la majesté est infiniment respectable, non seulement auprès des personnes de piété, mais quelquefois même auprès des impies. Ainsi que nous l'apprend l'exemple d'Églon, roi des Moabites, au livre des Juges. Or, c'est traiter la parole de Dieu d'une manière absolument injurieuse que de détourner la Sainte Écriture de son sens droit et naturel pour lui donner un sens conforme à la doctrine des impies et des hérétiques. Le prince des apôtres nous met en garde contre ce crime dans ce texte qu'il faut citer. Il y a quelques endroits difficiles à entendre, que des hommes ignorants et légers détournent à de mauvais sens, aussi bien que les autres Écritures, pour leur propre ruine. C'est encore déshonorer honteusement l'Écriture que d'en employer les maximes et les paroles, qui sont dignes de toute notre vénération, à des choses purement profanes. comme aussi de s'en servir dans des contes, dans des fables ridicules et vaines, pour des flatteries, des médisances, des sorts, des libelles diffamatoires et autres choses de cette nature. Le Concile de Trente condamne ces pratiques détestables et veut qu'on les punisse. Enfin, de même que ceux qui réclament et implorent le secours de Dieu dans leur infortune, l'honorent et lui rendent hommage, de même, ceux qui n'invoquent point son appui le privent d'un honneur auquel il a droit. C'est de ces malheureux que David veut parler quand il dit « Ils n'ont pas invoqué le Seigneur, c'est pourquoi ils ont tremblé d'épouvante là où il n'y avait rien à craindre. » Mais il en est qui sont enchaînés dans les liens d'un crime beaucoup plus détestable encore. Ce sont ceux qui, d'une bouche impure et souillée, osent blasphémer et maudire le nom adorable de Dieu. Ce nom digne de toutes les bénédictions et de toutes les louanges des créatures, ainsi que le nom des saints qui règnent avec lui dans le ciel. Ce crime est si horrible et si monstrueux que parfois nos saints livres, pour le nommer, se servent du mot contraire de bénédiction. Paragraphe 5. Châtiment de ceux qui violent le second commandement. La crainte des peines et du châtiment est d'ordinaire un excellent moyen de réprimer le penchant que nous avons de désobéir à Dieu. C'est pourquoi le pasteur, pour toucher davantage les cœurs et disposer plus facilement les fidèles à l'observation de ce précepte, devra leur expliquer avec soin ces paroles qui en sont comme une dépendance nécessaire. Le Seigneur ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris en vain le nom du Seigneur son Dieu. Et d'abord il leur montrera combien Dieu a eu raison de joindre des menaces à ce commandement. Ces menaces en effet nous font connaître et la gravité du péché et la bonté de Dieu, qui, bien loin de se réjouir de notre perte, cherche par des menaces salitaires à nous détourner du mal, afin que nous ne devenions point l'objet de sa colère, mais plutôt de sa clémence et de sa miséricorde. Il convient que le pasteur insiste fortement sur ce point, afin que les fidèles, connaissant l'énormité de ce crime, en conçoivent une horreur plus grande et mettent tous leurs soins à l'éviter. Il fera remarquer ensuite que le penchant des hommes à commettre ce péché est si grand qu'il n'eût pas suffi de le défendre simplement, mais que la loi avait besoin d'être accompagnée de menaces. On ne saurait croire combien cette pensée peut être utile aux fidèles. Car de même que rien ne nous est plus nuisible qu'une téméraire confiance en nos propres forces, de même le sentiment de notre faiblesse nous est extrêmement avantageux. Le pasteur ajoutera enfin que si Dieu n'a point décerné de châtiment particulier contre ce crime, il a affirmé d'une manière générale que ceux qui s'en rendraient coupables ne resteraient pas impunis. Nous avons donc lieu de croire que les maux dont nous souffrons chaque jour sont pour nous avertir de nos désobéissances en cette matière. Il est permis de penser en effet que les hommes ne sont sujets à de si grandes calamités que parce qu'ils manquent à ce commandement. Et l'on peut s'attendre qu'en mettant sous leurs yeux le tableau de ces malheurs, on les rendra plus sages et mieux avisés pour l'avenir. Que les fidèles, frappés d'une sainte frayeur, évitent donc ce péché avec tout le soin possible. Car s'il est vrai qu'au jugement dernier il faudra rendre compte de toute parole oiseuse, que sera-ce de ces crimes affreux qui font un tel mépris du nom adorable de Dieu? Copyright jesusmarie.com, le 10 janvier 2010. Fichier placé sous licence Creative Commons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.